un livre important. Dans l'Ancien Testament, je pense que c'est le livre le plus important pour comprendre ce que Jésus est venu faire. Donc, beaucoup plus tard, Jésus, mais je pense que l'Exode, c'est le livre le plus important pour comprendre l'œuvre que Jésus a fait, pour comprendre le mot qu'on utilise le plus souvent dans cette église-ci, évangile, pour comprendre le salut, pour comprendre le plan de salut de Dieu. Je pense que c'est le livre le plus important. On pense que c'est Moïse qui a écrit ce livre-là. Le livre semble vraiment l'attribuer à Moïse, mais on pense que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Entre autres, c'est une bonne raison, parce que Jésus l'attribue à Moïse dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui se divise en 2 sections, pour ceux qui ne sont pas familiers. Donc, on a premièrement la nation d'Israël, qui n'est pas encore une nation. C'est la descendance d'Abraham qui est vraiment esclave en Égypte à ce moment-là. Et puis, ensuite de ça, on voit leur sortie d'Égypte. Lorsque Dieu va les libérer, ils vont être conduits au désert en route vers la terre promise. Et là, Dieu va vraiment les constituer comme une nation. Il va leur donner une identité, l'identité d'un peuple qui est consacré à servir Dieu, mais qui est libéré de l'esclavage, qui est en route vers la terre promise. Alors, pourquoi est-ce qu'on se tournerait en 2016 vers un livre aussi vieux que ça, qui est dans l'Ancien Testament, alors que nous, on a le Nouveau Testament, on a la révélation de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on irait aussi loin que ça pour apprendre? Qu'est-ce qui nous amène là? Quelques raisons. Le livre d'Exode, c'est le livre où Israël va découvrir qui est Dieu. La série, on l'a appelée « Je suis, vous êtes ». Parce que Dieu va se révéler dans le désert, premièrement en Israël, mais dans le désert, à Israël. Premièrement en Égypte, mais dans le désert à Israël. Et Dieu va révéler qui il est. Et donc, c'est approprié pour nous de lire ce livre-là pour connaître Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, mais connaître aussi la mission que Dieu s'est donnée. Ce matin, on commence, puis Israël est esclave en Égypte. Ils sont vraiment mal pris. Et Dieu s'est donné une mission. Dieu s'est donné une mission de rédemption, de rachat, de salut. Il a décidé qu'il allait sauver ces gens-là totalement paumé, pour faire d'eux un peuple. Et cette mission-là résume la mission que Dieu s'est donnée envers toute l'humanité. Parce qu'à travers Israël, on a la révélation du début de cette mission-là que nous, comme chrétiens, nous portons aujourd'hui lorsque Dieu nous envoie vers toutes les nations de la terre pour aller faire des disciples. C'est cette même mission-là. Et donc, on va vers Exode pour découvrir la mission de Dieu, pour découvrir le cœur de Dieu dans sa mission. Qu'est-ce qui l'a amené à prendre à cœur Israël? On va le voir particulièrement ce matin. Pourquoi est-ce qu'on étudie le livre d'Exode aussi? Je l'ai dit tout à l'heure, parce que le livre d'Exode est probablement le livre dans l'Ancien Testament le plus important pour comprendre l'Évangile. On dit souvent ici à l'Église que l'Évangile est vraiment le cœur de toute la Bible, de toute la révélation de Dieu. Je dirais le summum de la manifestation de la beauté, de l'amour, de la gloire de Dieu, de sa sainteté. Lorsqu'on saisit l'Évangile, on a l'opportunité de vraiment comprendre qui est Dieu. Parce qu'à l'intérieur de l'Évangile, on trouve sa gloire, sa sainteté, sa compassion, sa grâce, son amour, on trouve tout ça. Et dans l'Ancien Testament, à travers le livre d'Exode, on a vraiment des clés importantes pour comprendre ce que Jésus vient faire beaucoup plus tard en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts. Entre autres, avec l'agneau pascal, lorsqu'Israël va sortir d'Égypte et qu'il va y avoir un agneau qui va être sacrifié, lorsque les sacrifices vont être instaurés. Jésus nous est présenté dans le Nouveau Testament comme notre agneau pascal. Tout ça n'était qu'une préfiguration de ce que Jésus allait faire plus tard. Et donc, on va vers Exode pour comprendre l'Évangile, pour comprendre beaucoup mieux l'Évangile de Jésus-Christ. On va vers le livre d'Exode aussi pour apprendre des leçons pratiques de foi. Parce qu'Israël va apprendre à marcher par la foi. Ils vont apprendre des leçons très concrètes sur la marche par la foi, sur la persévérance. Et on a besoin d'apprendre ces leçons-là, parce que nous aussi, on a besoin de marcher par la foi. beaucoup de bonnes raisons pour aller étudier ensemble le livre d'Exode. Et donc, on veut vous encourager, vous trouver dans le dépliant ce matin un plan de lecture. On va continuer à vous le donner. On l'a envoyé par courriel dans la liste d'envoi. On vous encourage à lire avec nous le livre d'Exode. D'accord? Et si vous n'avez pas lu la Genèse, dès que vous avez terminé ça, allez lire la Genèse. Vous avez besoin de ça comme background. D'accord? Vraiment parce que c'est une continuité. Mais lisez-le avec nous pour pouvoir l'absorber. On va couvrir le livre d'Exode en 13 exposés bibliques, 40 chapitres de la Bible. Alors, si vous ne lisez pas, il y a des moments où ça va être difficile de suivre, d'accord? Donc, vous voulez être familier vraiment avec le texte pour pouvoir nous suivre. Si vous n'êtes pas familier avec les Écritures, vous allez découvrir la Bible comme un livre absolument extraordinaire, comme probablement vous ne l'avez jamais vu à travers ce livre-là. Ce matin, on va retrouver Israël dans la lecture qui va nous être lue. On va retrouver Israël alors qu'ils sont esclaves en Égypte. Et Moïse nous présente leurs conditions. Et puis, on va découvrir aussi que Dieu a un plan, puis que Dieu est en train de préparer son médiateur pour venir les libérer de cette condition-là. On va prier ensemble. Père éternel, nous voulons te connaître. Père, on veut te découvrir, on veut te connaître comme tu es. S'il y a une chose que les Écritures nous enseignent, c'est à ne pas s'amuser à imaginer Dieu comme on voudrait qu'il soit, selon nos fantaisies, mais apprendre à te connaître pour qui tu es, tel que tu t'es révélé. Et dans ce livre, dans ce récit absolument incroyable et souvent surnaturel, d'une manière extraordinaire, tu vas venir te révéler à ce peuple. Seigneur, nous voulons te connaître. Et ce matin, tu nous révèles dans ce passage ta compassion. Tu nous révèles ton cœur pour Israël qui est dans un état misérable. Et on commence à découvrir ta mission, Seigneur, ton plan de rachat, ton plan de rédemption. Viens parler à nos cœurs ce matin, afin que nous entendions, Seigneur, ta compassion, pour que nous puissions ensuite regarder le monde qui nous entoure et entendre, Seigneur, la souffrance, entendre le malheur, avoir la même compassion pour entrer dans ta mission, Seigneur. Dans Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Les passages bibliques de ce matin sont tirés du livre d'Exode au chapitre 1, versets 8 à 16, et Exode chapitre 2, versets 1 à 10, dans l'édition second 21. Alors, Exode chapitre 1, versets 8 à 16. « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, qui n'avait point connu Joseph. » Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir, et si c'est une fille, laissez-la vivre. » Exode, chapitre 2, versets 1 à 10. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. » Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, « Je l'ai retiré des eaux. »
Merci, Julie. Exode. Ça s'appelle Exode, ce livre-là. Ça vient d'un mot grec, en réalité, puis on est dans l'Ancien Testament, en hébreu. C'est le mot grec qu'on a donné à la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante. Un petit peu d'histoire. Exode, ça veut dire sortir. Ça veut dire exil, ça veut dire quitter, ça veut dire partir. Et lorsqu'on trouve Israël au début du livre d'Exode, ils sont vraiment mal pris. Et c'est clair que si Dieu aime ces gens-là, si Dieu a compassion d'eux, il va falloir qu'ils les sortent de là. S'il veut les constituer comme une nation, s'il veut leur donner un avenir, ils n'ont pas d'avenir en Égypte. Il va falloir qu'il y ait un Exode et qu'ils puissent sortir de là. Maintenant, nous, comme chrétiens, bien des années plus tard, comment est-ce qu'on regarde ce livre-là? Christ, notre Moïse, on va voir ça tranquillement à travers le livre, nous a déjà fait sortir de notre Égypte, l'esclavage du péché. On a déjà été conduits à l'extérieur. On n'est plus dans l'esclavage. Je pense que souvent, lorsqu'on lit le livre d'Exode comme chrétien, on regarde puis on essaie comme de placer peut-être un peu de manière... inconsciente, les personnages, les joueurs. Puis on a l'impression que comme chrétiens, on vit dans un monde mauvais, puis on est des esclaves en Égypte, puis on est opprimés. C'est vraiment mal comprendre la révélation de Dieu. Parce que Christ, notre Moïse, nous a déjà conduits à l'extérieur de l'Égypte. Et nous devons regarder le monde qui nous entoure comme des esclaves du péché, d'un monde où il y a de l'oppression, de la souffrance, et ils ont besoin de connaître Christ, le vrai Moïse, qui va les conduire à l'extérieur. Déjà, ça change la lecture du texte. Pourtant, c'est clair que les Écritures vont dans ce sens-là. Si tu connais Jésus-Christ, tu n'es plus esclave, tu n'es plus en Égypte. Et ceux qui sont encore esclaves, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement. Et toi, tu as déjà été libéré. Tu vas me dire, OK, la terre promise, j'attends les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Oui, c'est vrai, mais tu as déjà été libéré du pouvoir, du péché, de la mort. Puis tu es déjà dans une vie nouvelle. Christ est là, marche au milieu de nous. Et c'est le regard qu'on veut déposer sur ce passage-là ce matin. Parce que j'ai besoin de réaliser qui a besoin d'être sauvé. Qui a besoin d'être sauvé aujourd'hui alors que je lis ce vieux livre-là, moi, avec les yeux d'un chrétien? Moi, je n'ai plus besoin d'être sauvé. Mais le monde autour de moi a besoin de l'être. Ce matin, on va voir ensemble la compassion et la mission. La mission de Dieu pour Israël. Et on va voir que sa compassion et sa mission pour Israël nous appellent aujourd'hui à entrer dans sa mission pour les hommes avec la même écoute, avec le même cœur. Avec la même écoute, avec le même cœur. Je vous relis ça. Ce matin, nous allons voir ensemble que la compassion et la mission de Dieu pour Israël nous appellent aujourd'hui, nous chrétiens, à entrer dans cette mission pour les hommes avec la même écoute et le même cœur. Premièrement, ce peuple-là avait besoin d'être sauvé. C'est gros comme ça, on l'a en pleine face. Exode 1, 8 à 11, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'ils ne s'accroissent. Et que s'il survient une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Alors, je veux juste faire une petite parenthèse avant d'aller plus loin parce que je vais parler en mal de l'Égypte au cours des prochaines semaines. D'accord? C'est évident. Parce qu'à cette époque-là, comme bien des nations à travers l'histoire de l'humanité qui ont commis des choses absolument atroces, à cette époque-là, l'Égypte pratiquait l'esclavage et a voulu vraiment détruire ou affaiblir leurs esclaves pour pas qu'ils soient trop nombreux. On trouve un peuple extrêmement nombreux. On va apprendre plus loin, je pense que c'est dans Exode 12, qu'on comptait près de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand ces gens-là sont au milieu de toi, s'ils décident de se révolter ou s'ils vont juste trafiquer quelque chose avec une nation étrangère, je te dis que tu as un cheval de Troie à l'intérieur de ton territoire. Puissant, d'accord? Et donc, ce que vous allez m'entendre dire par rapport à l'Égypte, je l'aurais dit si j'avais eu à prêcher sur l'Allemagne nazie. Je l'aurais dit si j'avais eu à parler du Canada qui est venu maltraiter des nations autochtones puis qui est venu les opprimer ici. Je l'aurais dit si j'avais eu à parler des États-Unis qui a pratiqué l'esclavage, d'accord? On est dans un contexte où la quasi-totalité des nations dans le monde ont pratiqué des choses absolument abominables. Et on en pratique encore aujourd'hui. Ici même au Canada, on va le voir ensemble tout à l'heure. Mais je voulais juste clarifier cela, d'accord? Je suis pas en train de m'en prendre à l'Égypte contemporaine. Je suis pas en train de m'en prendre à un peuple en particulier. On est en train de s'en prendre à un péché particulier qui est vraiment l'oppression. L'oppression, l'abus, l'esclavage. L'Égypte est une superpuissance à l'époque. Une super puissance avec leur culte, avec leur divinité. Ils dominent vraiment une région énorme. Ils ont marqué l'histoire. Parmi les sept merveilles du monde, on compte les pyramides. Et donc, c'était une super puissance. Et suite au livre de la Genèse, on trouve, à la fin de la Genèse, on trouve, dans le fond, les descendants d'Abraham qui vont venir s'installer en Égypte pour ne pas mourir de faim, puis d'une manière absolument souveraine, absolument extraordinaire. Dieu va les placer en faveur à l'égard des Égyptiens. Et donc, pendant ce temps-là, sous le service de Joseph, tout va bien, mais les générations vont passer, ça va tomber dans l'oubli. Et donc, ce qu'on voulait reconnaître en eux, le service de Joseph, ça va tout être oublié, d'accord? Et le peuple d'Israël est maintenant fort nombreux, devient une menace pour cet empire-là. On lit dans Exode 1:7, « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. » Je l'ai dit tout à l'heure, 600 000 hommes, imaginez avec les femmes et les enfants combien ça nous amène. C'était énorme comme population, d'accord? Énorme. Maintenant, ils sont dans une situation d'esclavage physique, politique, économique. On les traite vraiment comme des esclaves, on abuse d'eux. On profite d'eux au maximum. Il y a quelque chose d'important pour nous à réaliser si je veux bien comprendre la mission de Dieu envers Israël. Nous, on lit toute l'histoire d'Israël, on connaît la suite de l'histoire, on découvre un peuple qui est sauvé puis qui est ingrat, un peuple qui est rebelle, un peuple qui finalement a besoin d'avoir un cœur nouveau. Puis, donc souvent, lorsqu'on pense à Israël, on pense à un peuple rebelle envers Dieu. Mais leur condition au début de la Genèse, c'est une condition de victime innocente. C'est vraiment important de saisir ça. C'est vraiment important de saisir cela si je veux comprendre la mission de Dieu, si je veux comprendre le cœur de Dieu. Lorsqu'Israël est en Égypte, ils ne sont pas en Égypte esclaves parce qu'ils ont péché. Vous savez, ça existe des gens qui souffrent sans que ce soit de leur faute. Ça existe, ça. Pour nous, les chrétiens, souvent, on regarde les gens et on dit, « Ah, s'ils souffrent, écoute, d'après moi, c'est de sa faute, il a accumulé, il a fait des choses, c'est lui qui s'est mis dans le pétrin. » On voit des gens qui souffrent de pauvreté, puis automatiquement, on est en train de chercher, c'est quoi leur crime qui est derrière ça? Israël est esclave, ils n'ont rien fait de mal. Au contraire, Joseph avait été bon pour l'Égypte. Et ce sont des victimes innocentes. Et Dieu va les entendre. C'est important de réaliser cela lorsque nous, on veut rejoindre le monde, parce que ce qu'on voit comme chrétien, on a découvert que notre plus grand esclavage, c'est l'esclavage du péché qui est dans notre cœur. Puis on regarde le monde avec une paire de lunettes, puis tout ce qu'on voit partout, c'est péché, 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 péché. Oui, il y a plein de gens qui sont victimes du péché des autres. Puis ils souffrent, pas parce qu'ils sont coupables. Bien sûr, ils sont coupables, on est tous pécheurs. On va le découvrir, ça ne sera pas long à travers le livre d'Exode. Pour Israël, à ce moment-ci, lorsqu'on est au début, quand Dieu entend leur cri, il entend le cri de victimes innocentes qui n'ont rien fait pour se retrouver dans cette condition-là d'esclavage, d'oppression, où un génocide est commencé. On commence à mettre à mort les nouveau-nés mâles. Et aujourd'hui, l'oppression existe. Il est estimé à près de 30 millions de personnes dans le monde qui sont des esclaves ou qui sont victimes de trafic humain. 30 millions. Un cinquième de ces victimes-là seraient des enfants. Deux tiers seraient des femmes. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Est-ce qu'on va les regarder comme chrétiens en se disant, « Mais c'est de leur faute s'ils sont là. » Ben oui, c'est sûr, c'est de leur faute à ces enfants-là, à ces femmes-là, s'ils sont là, elles ont cherché ça. Voyons donc. Aujourd'hui, c'est la réalité. Il y a des millions de personnes dans le monde qui souffrent. Est-ce qu'on va trouver dans nos cœurs le cœur de Dieu pour Israël, qui était esclave, qui était des victimes innocentes ici? L'Occident, avec l'avortement. Sérieux, c'est un génocide cette affaire-là. C'est un génocide, cette affaire-là. Cette semaine, il y avait un article dans la presse qui disait que 4,4% des morts infantiles, donc des morts en bas âge, sont dues à des avortements manqués, c'est-à-dire qu'on pratique l'avortement, l'enfant naît vivant, puis on achève la job après. C'est un génocide. C'est pas à cause de leur péché qu'ils sont tués. Je sais qu'il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Je sais. C'est de la matière biologique. C'est ça que l'article soulignait. Quand le praticien a cet enfant-là dans ses mains après avoir essayé de le tuer dans le ventre de sa mère, il y a de la difficulté à le voir comme de la matière biologique. Et là, ils ont un dilemme. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être là, le dilemme. Mais il y a un moment où tu l'as en pleine face. Hein. C'est un génocide. On est impliqué personnellement à la Bouffe pour tous, notre banque alimentaire ici, puis on voit des gens venir qui, des fois, sont dans la misère parce qu'ils ont été cocons, tu comprends-tu? Mais on en voit d'autres qui sont là, puis c'est juste comme tout tourne mal contre eux. Des enfants qui sont dans des foyers où il y a de la consommation de drogue quotidienne, où il y a de la violence conjugale, ils n'ont pas demandé à naître dans cette famille-là. Est-ce qu'on va trouver en nous, l'Église de l'espoir, un cœur, des oreilles, de la compassion pour ne pas regarder le monde qui nous entoure comme des gens qui sont tous responsables et méchants pour tout le mal qui tombe sur leurs épaules. Israël était une victime innocente ici. Et on doit écouter et on doit voir les gens comme Dieu les voit. Pensez à Jésus-Christ qui allait parmi les foules, qui sans discrimination accueillait les gens qui souffraient, cherchait à les guérir, cherchait à soulager leurs souffrances. Ils n'arrêtaient pas en leur disant, « Attends un petit peu, là, si tu veux un petit miracle, mon petit copain, tu vas reconnaître que tu es un pécheur. » Parce que, oui, tu souffres physiquement, là, mais tu es aussi une méchante personne. Puis il faut que Dieu pardonne ton péché avant que je t'accorde ton miracle. Vous comprenez? Jésus aimait les gens qui souffraient. Il les accueillait. Bien sûr, il confrontait les foules avec le péché. Bien sûr. Quelques passages rapidement, psaume 146, versets 7 à 9. En parlant de Dieu, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Deux autres passages, très rapidement, Deutéronome 10, 17 à 19. « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne, qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Ésaïe 1, 16, 17, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. C'est bon pour nous aussi, même si nous savons que tous les hommes sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. » Et bien sûr, Dieu veut les sauver d'un esclavage spirituel. Dieu veut sauver Israël non seulement de l'esclavage physique, de l'esclavage politique, économique, mais veut les sauver d'un esclavage spirituel. La suite de l'histoire va nous montrer que tu pouvais sortir Israël d'Égypte, mais c'était plus dur de sortir l'Égypte d'Israël. Parce que lorsqu'ils vont être au désert, ils vont se mettre à maugréer, à chialer, puis à dire « on veut retourner là-bas ». On était bien mieux là-bas. Ils vont se faire un veau d'or. Ils veulent retourner vers ces cultes-là qui étaient entrés dans leur culture, qui étaient entrés dans leur pratique. Ils veulent retourner là. Parce que si tu sors Israël d'Égypte, c'est plus dur de sortir l'idolâtrie d'un cœur mauvais. Et la suite du livre d'Exode va nous aider à voir que leur véritable esclavage, le plus profond esclavage d'un être humain, c'est celui du cœur lorsqu'on est esclave à des idoles. On a besoin de la grâce de Christ. Vous allez voir, ce livre-là transpire de l'Évangile d'un bout à l'autre. C'est vraiment extraordinaire. Mais l'accent, au début du livre d'Exode, est sur la condition physique, économique et politique d'Israël. Et on voit à travers ça la compassion de Dieu se manifester. Compassion et mission de Dieu. Exode 2, 23, 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Simplement à cause du temps, je n'irai pas dans plein de passages. Mais Dieu entend, voit la souffrance. Il voit la souffrance d'Israël. Dieu n'est pas indifférent. D'autres passages nous disent que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de quiconque. J'ai besoin de m'en rappeler comme chrétien lorsque je passe par des épreuves et lorsque je souffre. J'ai besoin de me rappeler de ça. Mais les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, qui ne connaissent pas Dieu, ont besoin que moi j'aille leur dire que Dieu entend et voit leur souffrance. Dans ce passage-là, je découvre un Dieu qui a compassion, un Dieu qui entend les cris, qui entend la douleur. Et le monde aujourd'hui croit que si Dieu existe, Dieu est parti ailleurs. En Occident, dans le meilleur des cas, on va être agnostique. Peut-être que Dieu existe, mais si on avait des preuves que Dieu existait, on le verrait faire quelque chose dans la souffrance qu'il y a dans le monde. Dieu entend, Dieu voit la souffrance d'Israël. Dieu a compassion d'eux. Et on n'est pas Dieu, puis c'est comme insupportable pour nous de porter dans nos cœurs toute la souffrance. Je dis souvent, hein, suivre les médias, c'est comme tellement lourd parce que tu te sens tellement impuissant. Mais en même temps, j'ai pas le droit comme chrétien de fermer mes yeux, de boucher mes oreilles à la souffrance qu'il y a partout dans le monde. J'ai pas le droit de le faire si je veux être animé de l'Esprit de Dieu. Parce que je veux voir le monde, je veux voir la terre, je veux voir les êtres humains, je veux voir les gens qui m'entourent, je veux voir la pauvreté autour de moi. Comme Dieu la regarde. Et Dieu entend et voit la souffrance d'Israël. Dieu entend et voit la souffrance des hommes. C'est pas pour rien qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Et comme chrétien, je n'ai pas le loisir de fermer mes oreilles, d'arrêter d'avoir un cœur qui va porter cette souffrance-là. Je suis appelé à avoir ce cœur-là pour Longueuil. Je suis appelé à avoir ce cœur-là pour Haïti actuellement. Puis vous dites, oui, mais je peux rien faire. La prière, ça ne te dit rien pantoute? Tu ne connais pas Dieu, toi? Je pensais que tu connaissais Dieu. Je pensais que tu connaissais celui qui détourne le cours des rivières, qui détourne le cœur du roi comme il le fait avec le cours d'une rivière. Alors prie, puis porte ça sur ton cœur. Ferme pas ton cœur à la souffrance. Si tu fermes ton cœur à la souffrance, tu n'entreras jamais dans la mission de Dieu. Parce que tu n'auras pas sur ton cœur la mission de Dieu. Tu vas rester dans ton club med chrétien en te disant, c'est un îlot, puis on attend juste que Jésus vienne nous sauver de ce méchant monde. Nous sommes Israël, en esclavage, puis on attend le ciel. Tu n'as rien compris au livre d'Exode, copain. Tu n'es plus en esclavage, tu as été libéré. Oui, tu attends les nouveaux cieux, la nouvelle terre, mais on est en route. On s'en va là. Et j'ai Christ en moi, puis j'ai une mission à accomplir. Et je vais avoir un cœur qui bat comme le cœur de Dieu pour les gens et la souffrance autour de moi. Et Dieu s'est donné une mission. Il s'est donné une mission de rédemption. Dieu a décidé qu'il voulait sauver ces gens-là. Dieu a décidé qu'elle allait entendre leur souffrance. Dieu a décidé qu'elle allait intervenir. Il s'est donné une mission de rédemption. Tout le livre d'Exode, c'est l'histoire d'une mission de rédemption. Toute la Bible, c'est l'histoire d'une mission de rédemption. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'histoire d'une mission de rédemption. Une mission de rachat, une mission de salut. Dieu veut venir sauver, racheter. Et à travers le livre d'Exode, à travers le rachat, le salut d'Israël, Dieu va souligner dans nos cœurs à nous qui sommes chrétiens, que Dieu a envoyé vers toutes les nations de la terre, cette mission que Dieu s'est donnée, de sauver des hommes, pour les conduire, leur donner une nouvelle identité, leur révéler le grand Je suis. Et Dieu s'est donné une mission de rachat, parce qu'il avait fait alliance avec Abraham, et il s'est rappelé de son alliance. Et Dieu est fidèle à sa parole. Maintenant, ce qu'on oublie des fois comme chrétiens, c'est que la promesse faite à Abraham s'étend à toutes les nations de la terre. Elle commence avec Abraham, mais la bénédiction pour Abraham, puis sa descendance, puis Israël, va s'étendre jusqu'à toutes les nations de la terre. Et nous, on est dans cette partie-là du récit. Dieu se rappelle de son alliance faite avec Abraham. Et j'ose dire que cette alliance-là faite avec Abraham, c'est une alliance qui a été faite avec toutes les nations de la terre. Parce que par extension, c'est ça qui va se passer. Sa descendance, Jésus-Christ, va nous envoyer vers toutes les nations de la terre. Et Dieu va les libérer de l'esclavage physique, de l'esclavage spirituel. Il va les libérer, il va les conduire dans la terre promise. Et on est en route. On est en route, nous. On attend les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Je l'ai dit la semaine dernière, terrien pour l'éternité. Celle-ci ou une autre renouvelée, mais terrien pour l'éternité. On est en route vers la terre promise. Et Dieu veut sauver des hommes, des femmes, de toute la terre, de leurs conditions où ils sont, de l'esclavage et de situations d'oppression. Parce que lorsque Dieu vient sauver quelqu'un et qu'il le joint à l'Église, cette personne-là découvre une famille, découvre des ressources, découvre une famille où elle va pouvoir vivre une autre expérience de famille. Je suis né dans une famille où c'était la dope à tous les jours, la violence conjugale, puis on était, c'était pas vivable. Puis je découvre la famille de Dieu. Je rentre dans l'Église. comme Israël devait accueillir l'étranger. Je suis accueilli dans l'Église, je découvre une famille, j'ai une nouvelle identité. Mon père n'a pas été le père qui aurait dû être, mais je découvre un père spirituel, une mère spirituelle, un frère, une sœur. Ils sont là, ils prennent soin de moi. Ils m'aident à me reconstruire, ils m'aident à devenir une personne nouvelle, une nouvelle identité. Oui, mais je vis dans la pauvreté. On va t'aider, on va t'accompagner. Oui, mais j'ai plus rien à manger. Viens-t'en, on va prendre soin de toi. C'est pas ça que Jésus a promis. C'est ça que Jésus a promis. C'est ça que Jésus a promis. Puis on attend les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour compléter le tableau. Tous les rachetés de Dieu participent à la mission de Dieu. Puis je veux juste souligner, parce que je manquerais de temps autrement, mais c'est vraiment intéressant dans ce récit-là. Dieu prend le temps, Moïse prend le temps de nommer deux femmes qui sont ces sages-femmes qui décident de désobéir, un peu comme les apôtres avaient dit, hein, puis obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et elles décident de désobéir. Et je pense que c'était des responsables, des sages-femmes, 600 hommes, après ça les femmes, les enfants, deux femmes qui faisaient toutes les... Non, je pense pas, je pense qu'elles étaient responsables, mais souligne. Il les nomme par leur nom. Pourquoi il les nomme par leur nom? C'est parce que chacune des personnes ici dans cette pièce peut entrer dans la mission de Dieu. Avec ton nom, toi comme personne, pas simplement Moïse qui est à la tête de proue. Non, ces deux femmes-là font toute la différence et Dieu va les honorer. Alors chacun d'entre nous, on peut faire une différence et Dieu considère cela. Dieu voit que moi, Yannick, avec mes maigres ressources, je peux faire une différence autour de moi. La seule question que j'ai à me poser, c'est que je veux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'est-ce que Dieu me demande de faire maintenant autour de moi, là où il m'a placé? Et ces femmes-là ont joué un rôle super important. Sans le réaliser, elles étaient en train de protéger. Elles étaient en train de protéger. Le médiateur qui va s'en venir. Vraiment fascinant, vraiment fascinant. Devant toute la souffrance dans le monde, devant tous les abus dans le monde, devant l'esclavage physique, spirituel de ce monde, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Je l'ai dit tantôt, c'est tellement tentant de juste comme décrocher. Qu'est-ce que je peux faire pour Haïti? Sérieux. Je suis ici, tu sais. Notre réflexe, c'est de faire quoi? C'est de dire, ah, merci Jésus, je suis né ici. Ben oui, c'est sûr, c'est correct. Dites merci plus souvent, c'est bon. C'est bon, vous réalisez pas, on réalise pas à quel point on doit dire merci plus souvent. Amen. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Puis je regarde le mal, je regarde la méchanceté, je regarde où s'en va la société. Nous vivons à une époque en Occident de déchristianisation. On est à une ère post-chrétien. Je veux dire, le yob est aux vaches. Vous regardez où ça s'en va, c'est absolument n'importe quoi où ça s'en va, cette société-là. On ne sait plus comment définir l'être humain, c'est de la matière biologique. Fait que là, c'est absolument n'importe quoi. L'éthique ne fait plus aucun sens. Ce qui reste pour protéger ce qu'est un être humain va rentrer en contradiction. Et au fur et à mesure que l'être humain va se rendre compte, ah, mais finalement, c'est juste qu'on décide qui compte. Alors pourquoi ne pas décider que l'être humain n'est tout simplement pas un être humain, mais juste la matière biologique? Fait qu'on commence avec des lois sur l'euthanasie, avec plein de promesses que ça va tout être bien géré, puis après ça, c'est parti. Même chose avec l'avortement. Fait qu'est-ce qu'on fait comme chrétiens? Il n'y a pas d'espoir. On est découragés. On dit, nous, on est des survivors, on est au centre de l'océan, dans notre petit flotteur. On dit, Jésus, on t'attend. On va chanter Kumbaya Seigneur en attendant. Est-ce qu'il y a de l'espoir? C'est vraiment intéressant dans ce récit-là. Dieu a un plan. Dieu a un plan, puis il prépare. Sans être explicite dans le passage, tu vois le passage qui avance, puis oups, il y a un petit bonhomme qui naît, qui va être protégé. Et là, tu vois la main souveraine de Dieu qui est protégée à travers les eaux. Un Noé qui est dans son arche, puis qui est préservé parce que le sort d'Israël dépend de cette petite arche-là. Puis Dieu souverainement va le conduire. Puis Dieu va aller placer son médiateur dans la maison de Pharaon. C'est Pharaon qui va l'engraisser, qui va le former, qui va l'éduquer, parce qu'il va devoir diriger une nation. Ça va y prendre des connaissances. Il va falloir qu'il soit vraiment ferré pour pouvoir diriger ça. Pensez-y un instant. Des millions de personnes qui vont sortir puis qui doivent toutes se structurer pour être une nation. Fait que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, Pharaon, tu vas l'instruire, tu vas l'équiper, donne-lui le maximum de ta sagesse. Quand ça va être le temps, je vais aller le chercher. Il va les conduire hors de ta maison, hors de ton pays. parce que Dieu a un plan puis est en train de le préparer avec Moïse. Et Dieu avait un plan parce que Dieu avait un plus grand Moïse qui devait venir. C'est Jésus-Christ. Songez-y un instant. Moïse et Jésus. Tous les deux, on a essayé de les mettre à mort à la naissance. Tous les deux ont été préservés d'une manière extraordinaire. Tous les deux ont été en Égypte. Tous les deux sont préparés par Dieu, gardés à l'écart jusqu'à ce qu'ils soient prêts à entrer dans leur mission. Mais Jésus est beaucoup plus que Moïse. Jésus, ce n'est pas simplement un homme qui va se décourager. Il est le Moïse parfait parce qu'il est Dieu, le Fils, qui vient sur la terre, qui va être fidèle en toutes choses, qui va aller sur la montagne nous donner le sermon sur la montagne. Si Moïse a donné les 10 commandements, Jésus nous a donné le sermon sur la montagne. Si Moïse a opéré des choses extraordinaires, Jésus nous a donné l'éternité. Et nous, on l'a connu. On n'est plus esclaves en Égypte. Vous n'êtes pas un petit peuple pauvre, esclave d'une nation méchante qui est en train de vous opprimer. Vous lisez mal l'histoire, si c'est ça que vous comprenez de l'Exode. Vous êtes sortis de l'esclavage. Vous avez été conduits par Christ dans une vie nouvelle. Une nouvelle identité vous a été donnée. Et Dieu vous appelle, m'appelle, à rentrer dans sa mission avec lui. À regarder les gens autour de nous. L'apôtre Paul va dire, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Parce que Dieu m'appelle à regarder les gens autour de moi. Voir leur souffrance, voir leur misère, souvent innocente. Avoir un cœur. Puis savoir que dans le fond, leur plus grand esclavage, c'est celui du péché. On va voir tout le temps de voir ça avec Israël. Vous allez voir, c'est souligné en caractère gras. Mais ce matin, dans ce passage-là, ce que Dieu nous appelle à voir ensemble, c'est son cœur. C'est son cœur qui entend la souffrance, qui voit ses victimes innocentes, qui a compassion d'elles, qui se donne une mission de rachat, de rédemption. Il veut aller les sauver. Il veut les sortir de leur misère. Et il y a un plan, il y a de l'espoir. Il y a un Moïse qui est en train de préparer, qui va envoyer là, puis Dieu va opérer des choses extraordinaires. Je n'ai pas le droit de lire l'Exode comme si je ne vivais pas après la venue de Jésus-Christ. Je dois lire l'Exode comme un chrétien qui a connu le plus grand Moïse. Je ne suis plus esclave, je suis sorti d'Égypte, j'ai été conduit à l'extérieur, j'ai une nouvelle identité et Dieu m'appelle à rentrer dans sa mission avec lui. Vous savez, lorsqu'on parle de la vision de l'Église, puis on dit qu'on va être une Église, où on rêve d'être 500 disciples qui font des disciples de Jésus-Christ. Ce qu'il faut lire derrière ça, c'est qu'on veut être premièrement 500 personnes qui regardent le monde autour de nous pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Des gens qui ont besoin d'être sauvés. Des gens qui ont besoin d'être rachetés. Des gens qui ont besoin d'être accueillis dans la famille de Dieu, puis souvent être sortis de pauvreté économique, souvent être sortis de situations misérables sur le plan familial. Et ici, par les valeurs que Jésus-Christ nous a données, on a 1 million de ressources. J'ai le privilège de servir à Bouffe pour tous régulièrement. Puis souvent, je suis là, puis j'essaie de leur dire, à Bouffe pour tous, on est une famille. On est une famille qui veut s'entraider. Dans mon cœur, ce qu'il y a tout le temps, c'est « je vais vous présenter une autre famille. Je vais vous présenter une autre famille. » Puis là, on leur dit « si vous avez des besoins, si vous avez besoin d'un meuble, vous avez besoin de vêtements, vous savez, la congrégation ici, c'est 350-400 personnes. Il y a quelqu'un à quelque part ici qui a probablement le meuble que vous avez besoin. Dites-nous-le. » Et ce que je suis en train de faire quand je leur dis ça, je suis en train de leur dire « venez donc découvrir ma famille. Ma famille. » Parce que nous, on n'est plus des esclaves. On a été rachetés. Puis on est libre. Puis on marche avec Christ. Puis dans notre cœur, on vous aime. On veut juste vous accueillir. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce beau passage. Merci, Seigneur, pour le livre d'Exode. Je suis tellement reconnaissant pour tout ce qu'on va y découvrir. J'ai hâte déjà, Seigneur, d'être au pied du mont Sinaï et saisir un peu la gloire de ta sainteté, Seigneur. J'ai hâte de voir ta patience avec Israël, ta compassion devant un peuple au cœur rebelle et dur, Seigneur. Mais ce matin, c'est pas ça que je veux entendre, Père. Ce matin, Seigneur, je veux considérer l'état des descendants d'Abraham. Les victimes innocentes, esclaves, mal pris, qui ont besoin d'être conduits dans un exode par un Moïse que tu prépares, Seigneur. Et c'est ça que je veux entendre ce matin. Et c'est ma prière, Seigneur, viens déposer sur nos cœurs cette compassion, ce cœur, Seigneur, pour cette mission que tu t'es donnée. Qu'on puisse aller, Seigneur, annoncer notre Sauveur, ce vrai Moïse, Seigneur, qui est venu pour racheter. Dans Jésus-Christ que nous te prions. Amen.